ce matin, je vais commencer une série, certainement qui sera un peu interrompue par moment, parce qu'elle est un petit peu longue, sur un sujet qui, je pensais avoir été traité, j'ai essayé de le traiter il y a quelques années, et qui est revenu très fort pour différentes raisons, parce que je remarque, comme vous d'ailleurs aussi, un peu avec consternation, parfois que les chrétiens eux-mêmes et les pasteurs, pour certains, n'ont plus la victoire que Dieu veut leur donner dans leur vie. Ils sont en dépression, ils ont beaucoup de difficultés. Et pourtant, dimanche après dimanche, nous parlons de la victoire. Et nous avons la victoire. Amen. Et moi, je suis quelqu'un qui cherche vraiment les racines des problèmes, parce que je ne veux pas rester sur de la superficialité. C'est-à-dire proclamer quelque chose et pas le vivre. Ça, pour moi, c'est difficile. Je peux pas. Et je cherche donc à savoir quelle est la cause. Donc, ça, c'est une de mes préoccupations. Pourquoi n'avons-nous pas la victoire dans la vie telle que nous devrions l'avoir? Pourquoi les couples chrétiens aujourd'hui suivent la même pente que les couples inconvertis? Pourquoi tombons-nous dans les pièges que souvent nous récusons ou nous récusons chez les païens? Pourquoi n'avons-nous pas la vie spirituelle en abondance, et pourquoi ne respectons-nous pas toujours, même dans nos milieux évangéliques, les valeurs morales du bien et du mal? Eh bien, tout cela prend racine dans nos cœurs. Et notre cœur, en fait, est très tortueux. Et même en tant que chrétien, notre cœur reste tortueux. Ce qui change, c'est notre esprit. Amen. Ce qui change, c'est notre esprit. Mais notre cœur, eh bien, il a du mal à changer. Mais il y a des victoires. Je vous laisserai pas sur une défaite. Mais il y a des conditions, et j'aimerais avec vous regarder ces convictions. On va dire, pour démarrer cette étude, deux passages dans Deutéronome au chapitre 4. Je lirai pas tout le chapitre parce qu'il est très long. Il y a 49 versets. Mais quelques extraits que nous prendrons au fur et à mesure de l'étude. Maintenant, Israël, verset 1er du chapitre 4 de Deutéronome, écoute. Écoute Israël. C'est le fameux écoute Israël. Écoute pour les mettre en pratique les prescriptions et les ordonnances que je vous enseigne, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Voyez-vous, la recommandation d'écouter, de mettre en pratique la parole pour obtenir la victoire, pour posséder le pays de délices, et pour Israël, c'est Canaan, pour nous, c'est la vie chrétienne. Nous savons que Dieu veut que nous ayons la victoire. Amen. Mais il y a des choses qui nous en empêchent. Au verset 2, donc je continue, « Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien. » Ça, c'est déjà plus difficile, quand on voit depuis 2000 ans tout ce qu'on a pu rajouter, retrancher de la parole. Et comment nous, en quelques années aussi, nous retranchons et nous ajoutons à la parole. Il n'y a pas longtemps, on faisait un mariage, et bien, ils étaient scandalisés que je prêche sur Éphésiens 5, qui est pourtant la base du mariage. Mais vous voyez, on veut retrancher, on veut ajouter des choses. Mais vous observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les donne. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Baal-Péor, où beaucoup d'Israélites ont été engloutis dans la terre qui s'est ouverte. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout homme qui s'était rallié au culte de Baal-Péor. Verset 6, je saute un peu des versets. Vous les observerez, donc ces commandements, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux du peuple, des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront « Cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent ». Est-ce que les gens disent ça de nous, chrétiens évangéliques? Nous sommes un peuple sage, intelligent. Oui? Si c'est oui, tant mieux. Mais si c'est non, il faut que nous posions la question. Hein. Nous devrions être de ces gens dont on dit c'est un peuple sage et intelligent. Vous dites amen? Vous voulez être sage et intelligent? Amen. Je saute parce qu'il y a trop de lecture, mais lisez ce chapitre 4, je vous encourage, pour comprendre un peu l'enseignement que je veux vous donner dans les semaines qui viennent. Verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, prenez bien garde à vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous nous fassiez une statue, une représentation de quelque effigie sur le modèle d'un homme ou d'une femme, sur le modèle de quelque bête qui soit sur la terre, sur le modèle de quelque oiseau qui vole dans le ciel, sur le modèle de quelque animal qui rampe sur le sol, sur le modèle de quelque poisson qui soit dans les eaux au-dessous de la terre. Et aussi de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner devant eux et leur rendre un culte. C'est là que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Amen. J'étais un peu horrifié quand j'ai fait des recherches hein, sur Paris, et quand j'ai vu que tout Paris est plongé dans l'astrologie, hein, tous les monuments, tous les axes, etc., sont sous cette idolâtrie de l'astrologie. Ce qui nous étonne pas quand on sait qu'il y a plus d'astrologues à Paris que de médecins. Donc vous voyez où nous trouvons dans les valeurs quand on est sous ce genre de pratique et ce genre de croyance. Verset 39, je termine la lecture du chapitre 4 par le verset 39 et 40. Tu reconnaîtras donc en ce jour et tu retiendras dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, dans les cieux là-haut et sur la terre ici-bas, et qu'il n'y en a point d'autre. Et tu observeras ces prescriptions, ces commandements que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Hein, tout le monde cherche le bonheur. Vous cherchez le bonheur? Hein, c'est le principe des philosophes. Hein, ils cherchent le bonheur. Hein, et nous cherchons le bonheur. Eh bien, voilà comment il faut le trouver. Tu observeras ces prescriptions et ces commandements que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi, tes fils après toi, et que tu prolonges tes jours sur le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour toujours. Une deuxième lecture dans Ézéchiel. Donc il faut aller un petit peu plus loin dans votre Bible pour trouver Ézéchiel. Peut-être se trouve-t-il avant Daniel pour certaines Bibles. Ézéchiel chapitre 14, versets 1 à 6. Ézéchiel 14, versets 1 à 6. Quelques hommes parmi les anciens d'Israël, attention, c'est les anciens, hein, c'est ceux qui dirigent le peuple, hein. Quelques hommes parmi les anciens d'Israël vinrent vers moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: fils de l'homme, ces hommes-là portent leurs idoles dans leur cœur, et la pierre d'achèpement, leur faute, ils la placent juste devant eux. Me laisserai-je consulter par eux? Eh bien, parle-leur. Tu leur diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui met la pierre d'achoppement, sa faute, juste devant lui, s'il vient s'adresser au prophète, c'est moi l'Éternel qui lui répondrai quand il viendra, à cause de la multitude de ses idoles. Ainsi seront saisis dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi à cause de toutes leurs idoles. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes ces horreurs. Amen. Amen. Le thème pastoral de cette année s'intitule, comme vous le savez, Bâtissons le royaume de Dieu dans le Montois, avec une... Non, personne ne le sait. Hein. Je pensais que tout le monde le savait. Avec une vision commune. Une vision commune. Ah, faut que ça rentre. Hein. On a toute l'année. Hein. pour parler de ça. Une vision commune. Si nous n'avons pas de vision, sans vision, le peuple se détruit, le peuple périt, le peuple... on ne peut pas vivre si nous n'avons pas de vision. Et nous avons besoin d'avoir une vision commune sur les réalités. Et la réalité et la vérité, pour moi, c'est la même chose. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Jésus est la réalité. La réalité de ce que nous pouvons vivre. Amen. Et très souvent, nous ne sommes pas dans la réalité, nous ne sommes pas dans la vérité, nous sommes dans l'illusion. Donc ce matin, j'aimerais juste introduire ce thème sur la vision de la réalité qui nous entoure au niveau de notre cœur. Quelle est la réalité de notre cœur? Quelle est la réalité de notre culture qui nous entoure? Quelle est la réalité de la nature des idoles qui nous entourent? La réalité de notre condition, la réalité de notre gouvernance, comment nous gouvernons les choses. J'aborderai, pas aujourd'hui, mais dans les semaines qui viennent, sept personnages bibliques qui ont eu la victoire. Hein, donc il y a de l'espérance, hein, il y a de l'espoir, qui ont eu la victoire. C'est Abraham, enfin, il y en a d'autres qui ont eu la victoire, mais j'aborderai les thèmes d'Abraham, de Léa, Zachée, Naaman, Nebuchadnezzar, Jonas et Jacob. Vous voyez, c'est très varié, mais ça permettra de voir à chaque fois comment ils ont pu remporter la victoire en ayant les yeux fixés sur la réalité de ce que Dieu voulait leur montrer. Cette série de messages est une vision commune du chrétien libre, du chrétien affranchi du péché. On pense que dans certains milieux, on dit bon bah voilà, on se convertit, on est baptisé, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai et c'est faux. Et je vais vous montrer en quoi c'est faux, parce que la partie du vrai, vous l'avez tous saisi, mais ça ne suffit pas. Il y a une réalité derrière, en tant que chrétien, qui est grave, c'est celle de l'idolâtrie. En 98, ici, dans cette église, suite à des difficultés entre les anciens, en particulier le conseil, je me suis placé devant le Seigneur, je dis « Seigneur, pourquoi l'église ne marche pas ?» Il m'a dit « C'est à cause de l'idolâtrie. » Et à l'époque, pour moi, l'idolâtrie, comme pour beaucoup de contemporains, c'était des choses qui se pratiquaient dans les pays émergents, on voit mais dans l'Occident, on n'a plus l'idolâtrie, c'est du passé, c'est du Moyen-Âge. Et le Seigneur a été obligé de m'enseigner sur le thème de l'idolâtrie. J'ai prêché là-dessus et je pensais avoir terminé. Et l'an dernier, 2012, j'ai constaté donc les ravages de cette idolâtrie parmi les chrétiens. Et je suis tombé sur ce livre, que je vous recommande d'ailleurs, qui est en français, qui est traduit, « Les idoles du cœur » de Timothy Keller, qui est pasteur à New York. Et c'est vraiment un livre qui m'a interpellé parce qu'il rentre plus profondément encore dans la compréhension de l'idolâtrie. Et je m'appuie un petit peu sur ces enseignements. Quelques affirmations avant de commencer l'étude. D'une part, si je prends des exemples, si je prêche sur certaines choses, je ne vise absolument personne dans l'Église. Certains d'entre vous ont vécu des situations, peut-être que je peux évoquer, mais comprenez-les au sens vraiment profond du terme, parce que c'est un enseignement difficile à donner. Parce qu'il s'imbrique très profondément dans nos racines. Donc il y a des ramifications en nous qu'il faut couper, mais pas tout. Donc il faut discerner les choses. Premier préalable, c'est que l'être humain, Michel l'a déjà dit tout à l'heure à sa façon, l'être humain est incapable de vivre sans un maître. Incapable. Imaginez un bébé, là on a des bébés en ce moment dans l'église, un bébé qui naît, qui n'a pas quelqu'un qui s'occupe de lui. Vous voyez ce que ça donne, on a, au départ de la vie, besoin de quelqu'un, d'un maître, d'une mère, d'un père, de quelqu'un. Et ensuite, après, quand on grandit, on s'attache à un maître, on s'attache à quelqu'un qui nous enseigne. Alors, les premiers enseignants, ça doit être nos parents, c'est pas pas toujours des maîtres, mais nous devrions être des maîtres hein, pour les enfants. Parfois l'école, etc. Et ensuite après, ben, vous connaissez tous les maîtres qu'il y a dans ce monde. Donc ça, c'est la première chose. L'être humain est incapable de vivre sans un maître. Deuxième affirmation. L'être humain fini, donc l'être humain qui est fini, hein, qui n'est pas infini comme Dieu, a besoin d'adorer, d'admirer hein, ceux qu'il cherche à atteindre. Regardez ceux qui font de la musique, ceux qui font de la danse, ceux qui font enfin une passion particulière, ou moi-même en tant qu'ingénieur, pour moi c'était Léonard de Vinci, etc. On a des gens qui nous ont précédés, qu'on admire, et c'est normal. Hein, pour leur ingéniosité, pour leur capacité, pour tout, voilà. Hein, quelqu'un qui n'est plus là, il voulait devenir quelqu'un qui est connu au niveau de la France, qui était le premier artiste en France. Voilà. Et donc, au niveau chrétien, au niveau être humain, on a besoin d'admirer hein, ce que nous voulons atteindre. Et en même temps qu'on admire, on est transcendé, c'est-à-dire qu'on est on est habité, si vous voulez, par cette capacité qu'on imagine déjà être, on se projette, on est dépassé, hein, et voilà, du coup, on peut devenir, hein, c'est comme ça que l'être humain fonctionne, on peut devenir ce qu'on cherche à être. Troisième affirmation, l'être humain cherche le bonheur, il veut réaliser ses rêves les plus chers, ce qui est aussi légitime. Hein, si on est sur la terre et qu'on veut réaliser que le malheur, c'est quelque chose ne va pas. Hein, on n'est pas normal. Donc la normalité, c'est effectivement de chercher le bonheur, hein, de chercher à entrer dans les rêves. Hein. Là, je voudrais juste faire une petite digression. Hein, pour dire que très souvent dans les milieux chrétiens aujourd'hui, on pousse les jeunes à réaliser leurs rêves. Hein. Mais c'est très dangereux. Car on les pousse à leur propre maîtrise, à se maîtriser eux-mêmes. Il vaut mieux les pousser à entrer dans leur appel. Hein. Leur appel, parce que c'est Dieu qui contrôle l'appel. C'est Dieu qui réalise l'appel, parce qu'il vient de lui et il l'accomplit en nous. L'idolâtrie, profondément, est très dangereuse et perverse, parce qu'elle nous place sous la malédiction. Voyez-vous, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on échappe à la malédiction. Le Seigneur, quand il a envoyé le peuple dans le pays de Canaan, il a dit voilà, je place devant toi la bénédiction et la malédiction, mais choisis la bénédiction. Et très souvent, on voit, d'ailleurs avec les rois aussi, que le peuple vivait plus souvent dans la malédiction que dans la bénédiction. D'ailleurs, les déportations, c'était justement parce qu'ils ne sortaient plus de la malédiction et qu'il fallait faire quelque chose de drastique pour les amener à la bénédiction. La bénédiction, on est dans la bénédiction, pas simplement quand on fait ce qu'on doit faire. Voyez-vous, souvent la religion nous pousse à faire des choses qui sont conformes à ce que la religion commande. Non, on est dans la bénédiction quand on adore Dieu seul. Et c'est le problème de l'adoration, c'est le problème de l'idolâtrie. On est sous la malédiction quand on est dans l'idolâtrie. Alors vous me dites, ben oui, moi je suis pas dans l'idolâtrie. Ok, on va voir là, on va voir. Hein. Si on l'est, on ne l'est pas. C'est Dieu qui peut seul nous protéger des esprits méchants. Et vous, nous ne sommes pas dans un monde neutre. Hein. Dans le monde physique, dans lequel j'étais pour construire les satellites et les fusées, il faut connaître les lois physiques. Et quand on les connaît, on peut les maîtriser. On peut les maîtriser. Le problème, c'est qu'elles sont tellement complexes qu'il faut du temps. Hein, il faut de la maîtrise, beaucoup de maîtrise pour pouvoir s'en sortir. Mais on peut y arriver. Hein, parce que les lois ne bougent pas. Hein. Les lois psychologiques, sur le plan psychologique, sont déjà plus compliquées, vous le savez. Hein. Rien que si vous êtes marié, vous savez que c'est pas si facile que ça, hein, entre un homme et une femme, de bien se comprendre, de bien communiquer, il y a du travail, hein, parce que on est déjà au niveau d'un être humain. Mais si vous rentrez dans le monde spirituel, alors là, tout nous échappe. On rentre dans le monde religieux, on rentre dans le monde de la spiritualité, où regardez le nombre de religions qu'il y a dans le monde. Parce que chacun a sa compréhension, chacun a sa vision, chacun a sa vision du monde spirituel. Et chacun veut se protéger contre les difficultés, parce que le monde spirituel, c'est quelque chose d'invisible. Enfin, il se rend visible de temps en temps, mais la plupart du temps, il est invisible. Et là, on est très très mal, parce que si on n'a pas la vision de la réalité, de ce que c'est que le monde spirituel, eh bien, on peut faire des bêtises. Et on fait beaucoup de bêtises, et en particulier dans l'idolâtrie. Par exemple, Joël de Sresse avait dit qu'il avait été abusé de certains enseignements qui n'étaient pas justes. Vous vous rappelez lesquels ? Quand il était là ? Bon, certains enseignements qu'on a... Alors, je vais vous en donner un autre exemple, un supplémentaire à ce que Joël disait. Très souvent, on dit que nous devons fonder notre maison sur le roc. Hein. Vous connaissez la maison sur le roc, la maison sur le sable. Et c'est quoi l'explication de fonder sa maison sur le roc ? Il faut la fonder sur quoi ? Ah ben, c'est faux. Voyez-vous, c'est faux. Ben oui. Non, mais c'est faux. Oui. Non, mais Julie, tu as parfaitement répondu. Mais c'est la seule que j'ai entendue. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont pensé. Mais la plupart du temps, parce que c'est le petit cœur à fonder la maison sur Jésus. Non, pas du tout. C'est complètement faux. Tu me regardes. Étonné. Non, c'est faux. C'est faux. La maison sur le roc, ce n'est pas fondé sur Jésus. Parce que, bien sûr, Jésus, c'est tout. Alors comme ça, on s'en sort. Voilà, Jésus, c'est tout. C'est la parole et tout ça. Non, c'est faux parce que fonder sa maison sur Jésus, si on suit ça, ça veut dire que je fonde sur ma maison sur Jésus et je suis sur le roc. Voyez-vous, ça donne une vision très statique. Hein. Je suis chrétien, je suis sauvé, je suis baptisé, j'ai fondé la maison, moi je crois en Jésus, moi je proclame Jésus, et hop, rien ne peut m'atteindre. Ah ben c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Relisez le passage, là j'ai pas le temps de vous le lire, mais vous le connaissez très bien, mais relisez-le, ce n'est pas du tout marqué, c'est fondé sur Jésus. C'est fondé sur l'obéissance à la parole. Hé ! Est-ce qu'en tant que chrétien, toi qui fondes ta vie sur Jésus, est-ce que tu obéis toujours à ta parole ? Quelqu'un lève la main qui obéit toujours à la parole. Non ? Vous avez jamais failli en quoi que ce soit, même en tant que chrétien ? Ah, tout basé sur la parole. Ben voilà. Donc vous voyez, c'est pas aussi automatique que baser sa vie sur Jésus. Hello ? Oui, c'est s'appuyer sur la parole. Et voyez-vous, l'ennemi a une capacité de nous faire penser autre chose que ce qui est marqué, de manière à nous amener dans les sables mouvants et nous amener sous la malédiction. C'est ça son but, son objectif. Donc, déjà là, on est mal parti si on croit des choses qui ne sont pas écrites. Il est dit que celui qui pose sa maison sur le roc, eh bien, celui-là, la tempête peut venir et ne sera pas emporté. C'est celui qui, à chaque instant de sa vie, obéit à la parole. C'est ce que Jésus a fait. Hello ? Effectivement, nous devons imiter Jésus, hein, dans ce qu'il a fait. Il a obéi toujours à la parole de Dieu. Et à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose d'autre, et que Dieu l'a repris, eh bien, il n'a pas cédé. Parce que lorsque nous sommes sur la parole, eh bien, l'ennemi ne peut plus nous atteindre. Le terrain, voyez-vous, ça, on est sur du spirituel. Hein. Je vais parler du physique, du psychique, du spirituel. Le spirituel, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Hein. Il n'y a que les magiciens qui veulent maîtriser. Et la maçonnerie qui veut maîtriser les choses, l'univers et les puissances et tout ça, voilà. C'est l'orgueil suprême de maîtriser le spirituel, ok ? Mais nous ne maîtrisons à rien du tout, à rien du tout, à rien du tout. Un démon qui passe, hop, il nous chope, il nous croque et tout ça. Bon, je ne veux pas vous faire peur, je vais vous expliquer comment ça se passe. Hein. Mais nous ne maîtrisons à rien du tout. Pourquoi ? Parce que les esprits se basent sur le droit. Le physique et le psychique se basent sur les relations de cause à effet. Cause-effet. Si on connaît les causes, on connaît les effets, on peut se pallier. Vous voyez, on peut créer un bouclier pour combattre les choses. Le spirituel, non. Le spirituel, c'est sur le droit. L'ennemi veut toujours obtenir un droit pour entrer dans nos vies. Alors, voyez-vous, c'est de la justice, c'est du droit. Et nous avons beau essayer de nous débattre avec le monde spirituel, si nous ne sommes pas dans le droit que Dieu a prévu pour que nous soyons protégés, nous ne pouvons à rien. Et le droit, c'est Jésus qui nous l'a acquis. C'est Jésus qui l'a acquis à la croix, ce droit que l'ennemi ne peut rien contre nous. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. C'est Jésus qui bâtit son église, c'est Jésus qui établit le droit pour que l'ennemi ne puisse plus atteindre l'église et les chrétiens. Donc, c'est un problème de droit. Et le problème de droit, c'est que lorsque nous obéissons à la parole, l'ennemi ne peut rien. Lorsque nous désobéissons à sa parole, l'ennemi peut agir. Voyez-vous ? C'est question d'obéissance. Obéissant à la parole ou désobéissance à la parole. C'est ça le problème fondamental. Et les chrétiens ne s'en rendent pas compte. Le terrain cède car l'ennemi n'a pas d'autorité, pas de loyauté. Ses promesses ne tiennent pas. Voyez-vous, l'ennemi n'a pas d'autorité, mais il fait croire qu'il a une autorité. Regardez au Mont Carmel. Quand Élie a confronté les puissances de Baal et d'Astarté, hein, il leur a, toute la journée, il leur a dit, mais allez, appelez votre Dieu, appelez votre Dieu. Et pendant toute la journée, ils ont terminé par des incisions de sang et tout ça, et c'est rien passé. C'est rien passé. Pourquoi? Parce que les idoles n'existent pas. Ce qui existe, c'est les démons, c'est les esprits méchants qui sont derrière. Hein. Mais ceux-là, ils n'ont aucune autorité si Dieu ne leur permet pas. Donc c'est Dieu qui est en autorité. Et si nous sommes dans l'obéissance, à l'époque, Élie était dans l'obéissance à la parole, Dieu lui avait dit de confronter les esprits, et il l'a fait, et c'est Dieu qui a contrôlé les choses. Après, il a eu peur avec Jézabel. Hein, comme quoi, vous savez, c'est pas si facile un homme de Dieu. Hein, on peut être très haut à un moment donné et très bas à côté. Après, hein, quand on est dans la peur, quand on est dans des circonstances qui sont difficiles. Donc nous sommes fragiles. Alors je voudrais vous montrer le modèle de la réalité, ce modèle que je vois, qui est assez classique, hein, où vous avez l'esprit, l'âme et le corps. Hein. C'est rien de nouveau, hein, l'âme et le corps. Hein. Le corps, c'est l'enveloppe extérieure, l'âme, hein, c'est la vie, hein, c'est la même chose que la vie, notre capacité à sentir les choses, à penser, à vouloir les choses, avoir une conscience. Donc ça, c'est régi par les causes et les effets. Et l'esprit, c'est le centre de notre vie. Hein, c'est le centre. Au centre de notre vie, Dieu nous a placé en nous un esprit, et cet esprit devient vivant quand nous avons une relation avec Dieu, quand nous communiquons avec Dieu, quand nous recevons Dieu dans notre cœur. Ça s'appelle le centre, ça s'appelle aussi le cœur, hein, dans la culture biblique. Hein, ça s'appelle le cœur, ça s'appelle donc l'esprit, je l'ai mis là. Hein, voilà. Et tout ce qui est important à retenir, c'est que Dieu veut que nous gardions notre cœur, veut que nous gardions notre centre, nous gardions notre esprit qui soit pleinement donné entre les mains du Seigneur, pleinement rempli. Et c'est pour cela que dans le torrent qui purifie, la première leçon, c'est marcher par l'esprit et pour ne pas marcher dans la chair. Je vais vous donner une définition de l'idolâtrie, les idoles du cœur. L'idolâtrie est une élévation d'un bien. Alors, le problème, c'est que très souvent, on pense qu'une idole, c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais du tout. Là, c'est une autre erreur. Et c'est pour ça que nous ne méfions pas des idoles. On pense que l'idole, c'est quelque chose de mauvais. Ah ben oui, il adore une idole. Non, c'est pas du tout ça. Une idole, quand vous regardez en profondeur ce que c'est qu'une idole, c'est quelque chose de bien. Alors pourquoi je dis quelque chose de bien? Pardon? Oui, mais c'est quelque chose de bien, alors écoutez bien la définition, qu'on pousse à quelque chose d'extrême. C'est quelque chose de bien qu'on pousse à quelque chose d'ultime, quelque chose d'extrême. Hein? Par exemple, vous avez tout ce qui est en philosophie, tout ce qui est Platon qui se base là-dessus, hein, c'est le beau, par exemple, quelque chose de beau. C'est beau. Vous avez une belle peinture, vous avez un beau paysage, vous avez. Voilà, c'est beau. Hein, c'est beau. Mais si vous le poussez à l'extrême, ça devient une idole. Okay? C'est pareil avec tout le reste. Hein, vous avez le travail, les enfants, le mari, tout ça. Voilà. C'est des choses qui sont belles. Hein, qui sont admirables, hein, mais qui, si elles sont poussées à l'extrême, à l'ultime, deviennent une idole. Et c'est pour ça qu'on ne se méfie pas. Parce qu'on pense que c'est bien ça. Hein, je suis chrétien, je fais ça, c'est bien. Le problème, c'est que la frontière entre le bien et l'ultime et l'extrême, on ne la voit pas. Et très souvent, quand on est passionné, eh bien, on ne voit pas la frontière où on rentre dans l'idolâtrie. C'est là le piège. C'est là le piège. Lorsqu'une valeur finie, c'est une valeur finie le beau. Dieu a créé les choses belles. Hein? C'est Dieu qui les a fait. Bon, c'est quelque chose de fini. Hein? Quand on les pousse à l'infini, hein? Quelque chose d'infini, quelque chose d'extrême, quelque chose d'ultime, hein? Quand ça devient une valeur centrale de notre vie, hein? Donc effectivement, quand ça devient tellement important dans notre vie que ça devient central dans notre être, dans notre vie, eh bien, on juge tout le reste par rapport à ça. Ils sont jugés par rapport à ça. Et on l'élève à un rang central qui est la source finale qui donne du sens à notre vie. Et on le choisit comme Dieu. Et c'est un faux Dieu. Donc quand une valeur finie est vue comme étant nécessaire à la vie d'une personne, eh bien, ça devient terrible. Je prends juste un exemple. Tout simple. Kenneth Hagin, vous le connaissez, Kenneth Hagin, c'est un homme de Dieu qui a des dons extraordinaires au niveau des miracles et tout ça. Il était en chaise roulante quand il était jeune homme, pendant je ne sais pas combien d'années. Et par la foi, il est sorti de sa chaise roulante, il était guéri. Et puis maintenant, il sert le Seigneur et il a beaucoup d'églises. Autour de lui, il y avait des pasteurs, plein de pasteurs, qui à l'époque, dans les années 50, après la guerre, ils avaient plein de miracles. Plein de miracles. Ils imposaient les mains, tchou, les gens sortaient, les aveugles étaient guéris, les gens sortaient des chaises roulantes et tout ça. C'est incroyable. Un réveil fantastique. Et à un moment donné, paf, ça s'est arrêté. Il continuait à prier, il ne se passait rien. Alors ils sont tous tournés vers Kenneth Hagin, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, frère? On ne comprend pas, Dieu n'est plus avec nous, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, mais c'est simple, vous continuez par la foi. Il dit, quoi, c'est quoi ça, par la foi? Vous ne savez pas ce que c'était guérir par la foi. Ils savaient ce que c'était guérir, mais pas par la foi. Et vous, c'est devenu une idole. Et vous, c'est le fait qu'il ait reçu un don pour prier pour quelqu'un. C'était pas de leur grâce. C'est Dieu qui donne. Et il reprend, il fait ce qu'il veut. Okay? Par contre, la foi est quelque chose qui nous appartient. C'est bien sûr un don de Dieu, mais c'est quelque chose que nous entretenons. Et Kenneth Hagin continue par la foi, il existe encore. Et dans quelques années, tous ces pasteurs sont morts. Ils sont tous morts. Alors qu'il guérissait des malades, il guérissait des paralytiques, des choses incroyables. Et vous, l'idolâtrie, parce que c'est devenu une idole. Donc même en tant que pasteur, serviteur de Dieu, tout ce qui est bien, c'est bien quand même de guérir les malades. Bon, ben ça peut devenir une idole. Hello ? Est-ce que vous commencez à me suivre ? Est-ce que vous commencez ? Je ne vous demande pas de tout comprendre parce que moi j'ai mis du temps. Parce qu'on a l'impression que l'idole c'est mauvais. Ouah, l'idole c'est mauvais. Alors vous voyez, on juge ceux qui sont idolâtres et en fait on l'est aussi. Parce que, je vais le dire tout à l'heure, le cœur est une fabrique d'idoles. Donc on a des choses qui sont bonnes, mais on les pousse à l'extrême, on les pousse dans notre cœur, des choses qu'ensuite après on élève au rang de divinité. C'est vrai avec la paix. Cherchez la paix. C'est pas beau ça? Hein, tous les enfants du monde entier cherchent la paix. Quand on est jeune, on chante, on saute et tout ça pour la paix. C'est formidable. Est-ce que la paix est là aujourd'hui dans le monde? Avec tous ceux qui chantent la paix, qui veulent la paix. Non, parce que la paix, c'est un fruit qui est donné à ceux qui sont avec le prince de paix. Mais la paix en elle-même, on ne peut pas l'obtenir comme ça. La paix, la tranquillité, le repos, le travail, les enfants, la beauté, la prospérité, le succès, l'approbation, le pouvoir, tout ça, c'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses. Mais pousser un peu plus loin qu'il ne faut, et ça devient une idole. Voyez-vous, le problème, c'est que dans notre cœur, ou c'est Dieu, ou c'est les idoles. Et le problème, c'est que Dieu est un gentleman. Dieu est un gentleman. Dieu ne s'impose pas. Dieu nous demande de le chercher. Mais si nous ne le cherchons pas, bon, so what? Hein? Il nous détruit pas pour autant. Le jugement, c'est autre chose, ça viendra plus tard. Mais en attendant, il laisse les gens libres. Et il nous laissera toujours libres. Et en tant que chrétien, nous sommes toujours libres de le chercher ou pas le chercher. C'est notre volonté. Mais à un moment donné, quand il y a trop d'idoles dans le cœur, bah Dieu s'en va. C'est tout. Parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas cohabiter avec les idoles, c'est tout. Il ne peut pas cohabiter avec les faux dieux. Il ne peut pas laisser les faux dieux gérer notre vie alors que lui devrait la gérer. C'est ça le problème. Regardez Ézéchiel. J'ai beaucoup étudié Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 8, vous avez ce passage, et chapitre 14, vous voyez Ézéchiel qui était à Babylone, il était transporté en vision par un ange pour voir les choses qui se passaient à Jérusalem, et à la fin de cette vision, eh bien, il a vu l'Esprit de Dieu qui est parti du temple de Jérusalem, qui est allé sur une montagne. Et ceux qui étaient là, les anciens, ils pensaient que Dieu était encore là. Il n'était plus là. Il n'était plus là. Et toujours le temple de Jérusalem, mais il n'y avait pas l'Esprit de Dieu dedans. Voyez-vous, ce qui est le plus grave dans notre vie spirituelle, c'est de croire que nous servons Dieu alors que nous servons des idoles. C'est ça notre piège. Le centre de notre vie a des désirs et des passions immodérés. Regardez, l'apôtre Paul, il l'a dit très très bien dans le Romains chapitre 1er, de manière magistrale, il le déclare comment fonctionne l'être humain. Chapitre 1er, verset 20, il dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire de Dieu, incorruptible, par des images représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et ce qui est adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Ce que j'ai appris, et ce que je voudrais vous transmettre, c'est que le cœur humain, même chrétien, est une fabrique d'idoles à grande échelle. C'est ça le problème. Notre problème, c'est que le cœur humain est une fabrique d'idoles à grande échelle. Et c'est de ça que nous devons nous méfier. C'est que tout ce que nous touchons, nous avons tendance à l'élever au point où Dieu en a plus besoin. Vous voyez ? Bien sûr, c'est très imperceptible au début, mais au bout d'un moment donné, c'est ça que ça devient. Regardez dans la constitution du peuple de Dieu. Dieu a donné les 10 commandements. Okay ? Dieu a donné les tables de la loi. Il les a écrits sur des tables de pierre. Hein ? Okay ? Avec ses propres doigts. 2, 4, 5, jusqu'à 10. Okay ? C'est quoi le premier commandement ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le deuxième commandement. Non, c'est pas ça. Deuxième commandement. Pardon ? Tu ne te feras pas d'image. Donc, je vais pas le prendre parce que vous l'avez. Le deuxième commandement, hein, c'est que tu ne te feras pas de représentation. Alors l'image, moi j'aime bien le mot représentation. Parce que, vous savez, ça c'est une image. C'est une image, on aime beaucoup les visuels maintenant, les images. Hein. Mais j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de cette image, pour que si Laurence me dit un aviron, je vois dans ma tête l'image de l'aviron. Vous voyez, dire c'est une représentation. L'image, ça peut se présenter sous forme de pixels, mais dans ma tête, j'ai des pixels, ok? Et je vois un aviron, par exemple. Donc, j'ai pas besoin d'image. C'est peut-être pas exactement cet aviron-là. Il y a peut-être deux, trois équipages. Vous voyez, mais c'est la représentation. Tu ne te feras pas de représentation. Et tout à l'heure, je vous ai lu le passage, le texte. Reprenez-le. Dieu dit bien sur la montagne d'Horeb. Au Sinaï, je me suis présenté à toi, mais tu n'as pas vu de représentation. Parce que Dieu ne peut pas le représenter. C'est vrai qu'on accuse facilement l'Église catholique de faire des représentations, mais on n'a pas besoin des images des églises pour nous faire des représentations fausses de Dieu. C'est le problème, c'est que nous nous faisons une représentation de Dieu. Dieu, il doit me donner de l'argent. Dieu me donne la prospérité. Dieu, voyez, nous avons tous des attentes. Et nous projetons sur Dieu des choses que nous attendons. Et en fait, ce sont vraiment des convoitises de nos cœurs. Pourquoi je dis, c'est pas moi qui le dis, je le dis après d'autres personnes qui ont réfléchi plus que moi à ça, que le cœur est une fabrique d'idoles. Parce que nous avons des désirs et des convoitises au fond de nous, qui font partie de notre... Le problème, c'est que nous sommes corrompus à cause du péché. Et c'est pas parce que nous devenons chrétiens que d'un seul coup, notre cœur, il change. Notre cœur, il change chaque jour. Pas une fois pour toutes, voyez-vous ? C'est ça, le problème. C'est que notre esprit, nous recevons une fois pour toutes. C'est l'esprit de Dieu. Le problème, c'est qu'il reste pas avec nous si nous l'en empêchons. Parce que l'Esprit de Dieu, il ne s'impose pas, et lorsqu'il voit que petit à petit il n'a plus assez de place, eh bien il dit, mais je m'en vais, je reviendrai quand tu viendras. Et c'est très souvent ce moment-là, nous ne nous apercevons pas. Nous ne sommes plus conscients que l'Esprit se retire. Donc, si Dieu a donné ces deux premiers commandements, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne te feras pas de représentation. C'est que c'est les plus importants de tous les commandements. Les deux premiers commandements, c'est ce qui est la racine du péché. Voilà. La racine du péché, hein, que nous avons transgression, c'est l'idolâtrie, c'est de se faire des idoles. Et ce mécanisme est quelque chose qui nous colle à la peau. Le cœur humain a tendance à prendre les bonnes choses. Hein. La famille, par exemple, peut être une bonne chose. Un couple, ça peut être une bonne chose. Le travail, peut être une bonne chose. Et à les transformer dans des biens suprêmes. Nos cœurs élèvent au rang de Dieu, hein, des choses croyant qu'ils vont nous combler si nous arrivons à les atteindre. C'est ça le piège. C'est nous pensons toute notre vie que si nous allons atteindre ça, on va être comblé. Et donc on poursuit cette recherche, hein, et on rentre dans l'idolâtrie. Les idoles sont des dépendances spirituelles qui mènent au mal absolu. Prenez tout simplement l'exemple de l'Allemagne. Hein. Les Allemands, maintenant, ça va mieux, la nouvelle génération. Mais ceux qui ont vécu, ou qui ont encore vécu, enfin, il y en a encore qui vivent, hein, mais ils sont assez vieux, enfin, plus vieux, de cette période de guerre, ils sont honteux. Ils ont la honte de ce qu'ils... Comment un pays civilisé comme ça peut en arriver là? Comment ? On est consterné de voir qu'un État comme cela. Et tout simplement parce que petit à petit, voyez-vous, les premières, bon, je ne vais pas faire l'analyse du nazisme, parce que je ne suis pas spécialiste là-dessus, mais vous savez que la Jugend Hitler, c'est-à-dire les jeunes hitlériens, on les emmenait tout simplement dans la nature. On leur a fait aimer la nature. Ils ont pris les sacs à dos et ils allaient dans la nature. Vous dites, mais quel est le rapport avec le nazisme? Ben, c'est comme ça que ça a commencé. C'est tout. Aimer la nature, hein, et à communier avec la nature. Hein. Mais dès que vous communiez avec la nature n'est pas neutre. Il y a aussi des esprits derrière, etc. Et petit à petit, les choses partent à la dérive. Hein. Et l'État nazi a entretenu eh bien, une progression comme ça, spirituelle et psychologique, pour emmener les gens dans l'idolâtrie du Führer, celui qui allait les sauver de l'humiliation que les Français ont fait, etc., après la guerre pour imposer, etc. Enfin, bon, après, c'est devenu politique. Mais vous voyez, ils étaient prêts à suivre quelqu'un qui allait les sauver, qui allait leur donner à nouveau le rétablissement de leur dignité. Et en fait, ils ont obtenu la honte. Une idole, elle nous casse toujours les choses sur la tête. Toujours, toujours, toujours. Une idole, que ce soit quelque chose de très beau, eh bien, à un moment donné, ça nous est cassé sur la tête. Parce que l'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est chercher, détruire, tuer, voler. Il n'est pas gentil, hein. Il n'est pas gentil. Au début, il se présente comme étant gentil. Mais ça se passe toujours très, très mal. Très mal, parce que tout ce qu'il veut, c'est nous détruire. Alors, la deuxième point que je voudrais vous donner, c'est la réalité de notre culture. La réalité de notre cœur, c'est ça. C'est que notre cœur, à cause des convoitises et des désirs qui sont en nous, mais qui sont poussés par le péché, eh bien, ne sont pas purs. Donc, on ne peut pas désirer des choses sans que nous soyons transformés par l'Esprit de Dieu pour simplement adorer Dieu seul. Et nous sommes poussés à l'idolâtrie. La deuxième chose, c'est dans Colossiens, chapitre 3, au niveau de la culture, chapitre 3, verset 5. Colossiens, chapitre 3, verset 5. Il est écrit ceci. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Voyez-vous, la cupidité, c'est aussi la recherche des biens. Le bien matériel, c'est bien. C'est bien en soi, c'est bien. Mais le fait de les rechercher, c'est une idolâtrie. Voyez-vous, c'est ce que Paul nous annonce. Chaque culture a ses propres idoles. Prenez l'idole de la Troisième République française. Qu'est-ce qui s'est passé? Troisième République française, il y avait la Deuxième République qui a échoué. Troisième République, c'est suite aux Prussiens qui ont envahi la France. France a perdu la bataille. Bon, ils se sont posé des questions, ils disent, mais pourquoi on a perdu la bataille? Ben, ils se sont aperçus que les Allemands, qui étaient plutôt protestants, ils savaient lire, écrire et tout ça. Bon, les Français ne savaient pas, parce que bon, catholiques qui s'arrangeaient justement pour pas qu'on sache trop lire et tout ça, comme ça ils gardaient le pouvoir, et donc ils pouvaient pas suivre les commandements et tout ça. Ils ont dit, ça y est, on a la réponse, on va faire l'enseignement. Donc ils ont institué les écoles suite à ça, hein, les écoles privées. Ils ont d'ailleurs demandé aux écoles, des écoles publiques, des écoles privées de rendre les écoles à l'État et tout ça, parce que l'enseignement allait changer les choses. Voilà, on a enseigné les hommes et les femmes, etc. Et l'enseignement, ça va être, voyez-vous, une idole. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enseignement a changé les Français? Bien sûr, certains points. Hein, parce que c'est toujours du bien qu'on prend. Mais poussé à l'extrême, c'est pas ça qui donne le salut. C'est pas ça qui donne à la France la prospérité que nous cherchons tous aujourd'hui. Voyez-vous, quand on prend une valeur et qu'on l'élève, eh bien, on se plante. Aujourd'hui, la grande valeur, c'est l'épanouissement individuel. Épanouissez-vous. Mais qu'est-ce que vous attendez de vous épanouir, hein? On va faire du coaching. On va vous aider à vous épanouir dans tous les domaines possibles. Corps, âme, esprit. Voyez-vous, ça, c'est la grande mode, hein? Et on pense que ça va aider. Pourquoi? Parce que sans Dieu, on cherche des solutions, hein? Mais on ne trouve que des ersatz. Hein? Les églises. Il y a des églises qui pensent que la croissance numérique est un must pour que l'église marche. Et tout est comme ça. Dans notre culture, comme souvent nous sommes portés aussi dans la culture en tant que chrétiens, nous adoptons des choses que nous intégrons à notre vie et qui nous amènent dans l'idolâtrie. Ce que j'ai appris dans ce livre aussi, c'est quelque chose qui est assez ennuyeux, c'est qu'il y a deux profondeurs d'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie apparente, par exemple l'argent. L'argent, c'est une idolâtrie. Mais il y a une profondeur, deuxième couche d'idole, qui sont les motivations. Qu'est-ce qui me motive à avoir l'argent? Donc vous voyez, il y a deux niveaux d'idolâtrie. Ce qui me motive, alors les comportements sont totalement différents. Si moi je suis motivé par l'argent pour avoir le pouvoir, je vais agir d'une certaine manière sur les gens, pour les contrôler, pour leur demander de m'obéir, etc. Mais si l'argent je l'utilise pour être approuvé, parce que j'ai besoin d'approbation profonde dans ma vie, je vais être gentil avec les gens, je vais leur donner de l'argent. Vous voyez, c'est pour montrer que la motivation après change notre attitude. Et c'est pourquoi ça vient chercher l'idolâtrie, vient chercher aux racines de notre être. Et si les racines de notre être ne sont pas guéries, eh bien nous pouvons aller à la dérive. J'aimerais simplement terminer là-dessus pour introduire ce sujet. Après, nous allons voir les différents personnages dans la Bible, comment justement le Seigneur... Parce que le Seigneur est bon avec nous. Il veut déraciner toutes les idoles qu'il y a en nous. Et donc, il s'y prend de différentes manières. Très souvent, enfin pour moi, ça s'est passé comme ça, une épreuve énorme m'a obligé à réaliser ces idoles qui étaient dans mon cœur. Mais n'attendons pas les épreuves énormes pour s'en rendre compte. Le Seigneur veut petit à petit nous montrer en quoi nous sommes attachés à des choses qui sont peut-être bonnes, mais qui ne doivent pas être le centre de notre vie. Le centre de notre vie, ça doit être Dieu seul. Dieu seul. Ça doit être, c'est lui qui pourvoit, voyez-vous. Et ça, c'est très difficile pour nous, êtres humains. C'est très, très difficile. Et c'est pour ça que Dieu, parfois, nous pousse dans des épreuves très, très difficiles pour voir, pour nous tester. Et on va le voir dans les personnages bibliques que nous allons prendre. Si Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui ne sont pas idolâtres, où toutes les racines d'idolâtrie sont enlevées, il faut accepter les épreuves. Parce que, d'un côté, l'idolâtrie est quelque chose de facile. Parce que l'idole, la Satan, il la présente comme quelque chose d'extraordinairement beau. Et en plus, c'est du beau, du bon qu'on pousse à l'extrême. Donc c'est une idole, ça vous éblouit. Oh, waouh ! Formidable ça. De l'autre côté, servir Dieu, c'est la croix. La croix, c'est dépouiller. La croix, c'est la mort à soi-même. La croix, on dit mince, waouh ! Oh non ! Faire l'idole, vous voyez, c'est-à-dire le choix est fait tout de suite, notre cœur est poussé, c'est pour ça qu'on est une fabrique d'idoles, parce que accepter la croix comme ça, voyez. Et c'est pourquoi de plus en plus dans les temps d'apostasie que nous allons vivre, eh bien faites très attention lorsque la croix diminue, lorsque la puissance de la croix diminue dans nos milieux, dans nos vies, dans nos familles, c'est très dangereux, parce que c'est la séduction de l'idole qui arrive, la séduction d'une représentation. Ah, Dieu veut... Regardez John Bevere. John Bevere, vous connaissez John Bevere? Il a dû reprendre un pasteur, d'ailleurs il n'est pas réussi, un pasteur très connu aux États-Unis, qui a quitté sa femme. A dit, mais pourquoi t'as pris une autre femme, voilà. A dit, ah, mais Dieu le veut. J'ai dit, ah bon? Pourquoi Dieu le veut? Ah bon? Il veut que tu quittes ta femme? Oui, parce qu'il veut mon bonheur. Parce que je n'étais pas heureux avec ma femme, donc il veut mon bonheur. Vous voyez la façon de présenter les choses? Hello? C'est ça l'obéissance à la parole? Ben oui. Ah ben, il s'est fâché avec lui, il ne l'a plus jamais invité, et voilà, il a quitté sa femme. Voyez-vous, des pasteurs. Donc ne faisons pas trop de spiritualité autour de notre personne. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous avons tous un cœur qui est passionné de choses, mais ces passions sont corrompues ce monde est corrompu et nos recherches de notre bonheur est corrompu. Seul Dieu peut nous satisfaire. Seul Jésus peut nous donner la victoire dans nos vies. Et ce que nous devons, c'est effectivement chercher Dieu seul. Pas simplement nous détourner des idoles. On va le voir les fois suivantes, comment nous détourner des idoles, mais surtout chercher Dieu. Parce que si Dieu est plus fort, plus nous fascine davantage que les idoles, alors nous allons nous détourner tout naturellement des idoles. Et les vrais hommes et les femmes de Dieu qui se sont dégagés de l'idolâtrie, vous le voyez. Vous le voyez dans leur vie. Paul a dit, je peux vivre dans l'abondance ou la disette. Ce n'est pas le problème de l'abondance. C'est le problème de s'attacher à l'abondance. Vous voyez. Paul, il vivait dans l'abondance ou la disette. Mais il était attaché à Dieu. Voyez-vous. C'est ça que nous devons réaliser. C'est nous attacher à Dieu. Si Dieu nous donne l'abondance, merci Seigneur. Hein, Hélène et Philippe n'ont pas craché sur le voyage qu'on leur a offert, mais ils ne s'attachent pas à ça. Voyez-vous. C'est toute la différence. C'est que faites attention, faisons attention si nous nous attachons à quelque chose ou pas. Et comme je l'ai dit au départ, ne prenez pas ça pour vous tout de suite comme une accusation. Je suis en train d'accuser personne. Je suis en train de dire que l'idolâtrie est le danger le plus important qui nous guette en tant que chrétiens. Et si nous arrivons à déjouer les pièges de l'ennemi, de l'idolâtrie, eh bien nous pouvons vivre une vie selon le Seigneur, selon sa grâce, selon sa puissance, selon son abondance, selon ce qu'il a prévu pour nous, selon notre appel. Et les choses, il n'y a plus rien qui peut nous résister, mais nous serons totalement soumis à la Seigneurie de Dieu. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te demandons de nous donner vraiment, de débusquer toutes les choses que nous avons élevées, qui sont bonnes, mais que nous avons élevées au-dessus de toi. Te demandons, Seigneur, de nous aider à les discerner, à les voir, pour nous en défaire, Seigneur. Ces choses peuvent être très, très variées, peuvent être très subtiles, Seigneur. Nous pouvons vraiment les cajoler, Seigneur, mais ce que nous voulons, c'est vraiment que tu nous aides à débusquer ces choses dans nos cœurs, afin que, Père, nous puissions vraiment fonder notre maison sur le roc, sur l'obéissance à ta parole. Seigneur, que nous ne nous laissions pas bercer par des illusions, Seigneur, que l'ennemi essaye d'entretenir, mais que nous puissions vraiment te servir tel que tu le veux, afin que nous soyons dans la bénédiction et la bénédiction en abondance, et que nous puissions manger les bons fruits succulents, Seigneur, que tu as prévus dans ce pays où que le lait et le miel, Seigneur, tu nous as prévu toutes ces choses, et nous voulons les manger à pleines dents, Seigneur. Nous te remercions parce que tu as une issue, Seigneur, pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions vivre pleinement, Seigneur, dans ta parole. Seigneur, sois béni, loué et adoré dans le nom de Jésus. Amen.